écoutez Reliure, l'émission littéraire de Radio Galaxie. Bonjour et bienvenue dans Reliure, l'émission de Radio Galaxie. Aujourd'hui, nous recevons pour la première fois Jefferson. C'est un auteur qui nous vient de Sanaa, tout près de Martres-Tolosane. Bonjour Jefferson.
Bonjour.
Vous allez nous présenter votre premier roman. C'est votre premier, vraiment.
C'est le premier roman achevé, effectivement.
Mm-hmm. Donc, il est visible aussi sur Internet pour le moment.
Tout à fait.
Est-ce que vous allez l'éditer en papier ?
Alors, effectivement, l'édition papier existe. Mm-hmm. Par rapport, je dirais, aux contraintes des éditeurs, j'ai choisi, en fait, ce qu'on appelle l'auto-édition.
Oui.
Par le site qui s'appelle The Book Edition, qui vous permet donc de créer votre propre roman en édition papier,
oui.
Avec un lien disponible sur Internet, tout à fait. Et il est accessible sur, je dirais, les bases classiques, The Book Edition directement,
oui.
Amazon ainsi que Google.
Oui. La couverture, c'est vous qui l'avez choisie ?
C'est tout à fait moi qui l'ai choisie, tout à fait, créée, réalisée. Avec déjà des premiers aspects en fait, du contenu. Si on prend la première de couverture, on voit donc le personnage dans ce qu'on va appeler le tunnel de lumière.
Oui.
Donc on a déjà un aperçu de la littérature et du texte qu'il y aura à l'intérieur.
Alors ce livre est une pure fiction.
Tout à fait.
Est-ce que pour vous, c'est plus facile d'écrire une fiction plutôt que d'écrire quelque chose qui aurait trait à l'histoire ou qui aurait trait à du vécu ?
Oui, pour moi c'est plus facile, je me plonge plus facilement dans l'imaginaire.
Oui.
Et donc par rapport à nous, l'imaginaire c'est la fiction ou le fantastique. J'aime bien l'histoire, j'aime bien effectivement ce genre de roman ou de bouquin, mais il y en a déjà beaucoup qui écrivent des romans historiques ou des romans divers.
Oui.
Et moi je préfère ceux qui n'existent pas encore.
D'accord, là pour le coup, comment est-ce que votre imagination a-t-elle fait l'au-delà, puisqu'on va parler de l'au-delà, on va dire tout à l'heure le titre. Est-ce que ce sont des lieux réels qui vous ont inspiré ?
Non, j'ai tout inventé de mon imaginaire à moi. En fait, je suis moi-même passionné science-fiction.
D'accord.
En regardant beaucoup de films, en lisant des livres, je me suis un jour posé une question il y a bien des années, mais si réellement un humain partait dans l'au-delà, que se passerait-il pour lui ?
D'accord.
Et surtout, pourrait-il revenir ?
Oui.
Alors qu'il est dans un monde irréel et dans un monde qui n'existe pas pour nous.
Oui. Donc vous aviez imaginé à la limite un témoignage.
J'ai imaginé un témoignage et aussi imaginé un voyage.
Oui.
Un voyage dans l'imaginaire, dans l'au-delà.
Mm-hmm. Vous aimez les voyages ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Donc on va essayer d'en dire un maximum sans en dire trop. En tout cas, garder toujours le suspense tout le long de l'émission. Donc vous êtes sensible aux choses extraordinaires ? Les films et les livres.
Oui, je suis sensible tout à fait et je m'intéresse effectivement beaucoup à, on va dire, c'est la science qui s'occupe, je dirais, essentiellement au travers de films, de reportages, mais qui s'occupe de ce que nous, on a du mal à comprendre ou à percevoir, avec un exemple notamment, par exemple, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. C'est un petit peu, on va dire, le début possible de ce genre d'histoire, même si la mienne est totalement romancée, bien sûr.
Oui, romancée et inventée.
Et inventée, puisque, en fait, pour éviter le plagiat ou certaines choses, je me suis effectivement d'abord renseigné, est-ce que cela existe déjà en tant que roman, en tant que livre ? Est-ce que cette idée a déjà été exploitée ? Et je dirais, pour l'instant, je pense être l'un des premiers à avoir imaginé cette forme-là, tout simplement.
D'accord. Donc, on va dévoiler le titre. En fait, il s'agit de perte de contrôle dans l'au-delà.
C'est tout à fait ça.
Pourquoi vous avez choisi ce titre ? Est-ce que vous l'avez choisi avant ou est-ce que vous l'avez choisi après ?
Non. Vous avez raison. Ça, c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas choisi avant parce que le premier titre, je n'en avais pas. J'ai déjà voulu écrire l'histoire et je dirais en fur et à mesure que je réussissais à écrire les mots, à mettre en place l'histoire, en fait, j'ai constaté que l'au-delà perdait le contrôle, tout simplement. Alors, c'est peut-être un titre un petit peu long, mais en fait, ça traduit exactement ce qui se passe dans le bouquin, l'au-delà, et on va dire ce que l'on imagine dans l'au-delà, ont perdu le contrôle, je veux dire, des opérations.
Mm-hmm. Donc, c'est un sujet aux multiples facettes, il faut bien l'avouer, puisque vous allez en fait enfin, on va le voir. Et c'est un livre extraordinaire que moi, je recommande à tous nos auditeurs. À la page 18, par exemple, vous dites « L'au-delà est moderne, 100% high-tech ». On dirait une scène de film. Je me trompe ou pas ?
Non, vous ne vous trompez pas, parce que vous l'avez lu, c'est une bonne chose. Non, vous ne vous trompez pas. Il est vrai qu'en écrivant, je me suis projeté quand même pour être dans la peau du personnage et me dire, si sur Terre, nous avons de la technologie, nous avons des événements, autant que je tente de les retranscrire pour ce que le lecteur, les lectrices, puissent avoir comme une accroche quand même par rapport à l'existant, si je puis dire ça ainsi, par rapport à ce qu'on connaît. Et donc, par rapport à ce qu'il y a sur Terre, en tant que différentes morts, des différents soucis lorsque chaque personne parte, j'ai imaginé donc qu'il fallait, entre guillemets, un accueil digne de ce nom, les structures adéquates pour nous accueillir quand nous partirons dans l'au-delà.
Oui. Et qui est Jackson ?
Alors, Jackson, en fait, à la base, c'est un scientifique. Donc, j'ai choisi ce profil d'un scientifique qui, logiquement, ne croit pas à ce qui n'existe pas.
Oui.
Généralement, moi-même, je suis dans la science et la technique. Je ne crois, entre guillemets, que ce que je vois. Mais j'ai voulu justement avoir un petit peu ce cadre pour dire, on va emmener ce personnage dans quelque chose qui n'existe pas. Et bien, comment on va le voir ? Comment on va pouvoir visionner ces lieux ?
D'accord. On avance dans le livre. Pour trouver la bonne personne, et la bonne personne dans la hiérarchie suprême est toujours inaccessible, dans l'au-delà, c'est un peu comme sur Terre, oui ou non ?
Eh bien, en fait, c'est ça. Dans l'au-delà, j'ai imaginé que c'était un petit peu comme sur Terre, avec ses contraintes et ses inconvénients. C'est-à-dire que Jack donc, arrive dans l'au-delà, et on constate très rapidement qu'il n'est pas mort, qu'il a encore son enveloppe
corporelle. Oui, parce qu'il y est par accident, finalement.
Il y est au début par accident, mais on comprendra en lisant le livre en fait, quelque chose l'a fait monter là-haut. Et donc, sur le principe par accident, mais j'ai voulu effectivement ce contexte, tout à fait.
Mm-hmm. Plus on monte dans la hiérarchie où l'on vit, et là, on est dans l'au-delà, est-ce que ça serait également ici-bas, que l'on veut monter, que l'on ne peut pas, qu'il faut passer par des filières, est-ce que ça ressemble en tout cas à ce
ça
qui
ressemble.
Se passe sur la Terre ?
Vous avez raison, ça ressemble un petit peu. J'ai pris un petit peu cet exemple qu'on va dire un peu grossier, mais qu'on connaît, je dirais, assez souvent, d'un accident qui survient et on va tenter de le résoudre sans que nos responsables ne l'aient appris ou ne s'en aperçoivent en dissimulant, en trouvant des solutions. Le problème qu'il y a, c'est que c'est la première fois et on espère la seule fois que ce genre de problème arrive. Mais malgré tout, en tant que modeste humain, Jack va quand même vouloir tenter de dire et de voir, étant donné qu'il est dans l'au-delà, pourquoi ne pas en profiter pour continuer au maximum pour savoir déjà comment il est arrivé et comment repartir. Et en fait, malgré lui, il va effectivement voyager, faire des rencontres et de lui-même vouloir repartir. Mm-hmm. Et pour ça, il faudra qu'il s'adresse aux bonnes personnes, effectivement.
Et oui, bien sûr. Et dont les bonnes personnes ne sont pas facilement accessibles.
Exactement.
Quand il est là, il ne peut pas s'empêcher d'aller voir, parce qu'il voit tous ces gens qui passent, qui repassent, qui le regardent et qui passent à travers les murs. Et il ne peut pas s'empêcher de monter les escaliers, lui aussi. Est-ce qu'il veut être le témoignage de ce qu'il a vu ?
Non, il ne veut pas forcément être le témoignage ni le témoin de ce qu'il voit, puisqu'en fait, en tant qu'humain, si on nous dit « j'ai été dans l'au-delà, j'ai vu des choses abracadabrantes », généralement, on ne croira pas. Donc, il veut, je dirais, voyager, voir pour lui, éventuellement pour raconter, mais il faut bien comprendre qu'en revenant, on le prend pour un fou. S'il racontait réellement qu'il a été monté dans l'au-delà. Donc, non, il monte effectivement des marches, il y a des escaliers, il y a différents lieux. Mm-hmm. En fait, pourquoi ? En fait, ça symbolise tout simplement, il y a la hiérarchie que l'on peut voir sur Terre, dans beaucoup de structures, que ce soit familièrement peut-être pas, mais dans les entreprises où il faut monter les niveaux quand on veut accéder à une haute hiérarchie, c'est le symbole en fait que j'ai voulu faire ressortir, tout à fait. Il faut monter, il faut aller l'avant, il faut rencontrer les bonnes personnes si on peut pour aller à la source ou du problème et après trouver la solution. C'est le contexte que je voulais effectivement conserver. C'est cette similitude qu'il y a. Je souhaitais que l'électeur, comme je dis, garde un petit peu les repères terrestres pour se dire dans l'au-delà, ça ressemble quand même à ce que je connais.
Oui.
Tout simplement.
Est-ce que vous disiez tout à l'heure être informaticien, est-ce que votre travail vous a aidé à mettre des bons mots ?
Je dirais oui. Effectivement, je travaille dans la technologie. Et ça m'a un petit peu aidé pour mettre en place de manière assez synthétique et simplifiée effectivement une structure.
Mm-hmm.
J'ai effectivement inventé de la technologie dans l'au-delà. Pourquoi ? Pour répondre, je dirais, hélas, au nombre de personnes qui décèdent sur Terre. On est nombreux, je dirais, ils sont nombreux, hélas. Et donc, je me suis dit, il faut de la technologie pour assurer un suivi, je peux dire presque réel, dans l'au-delà, parce qu'il faut répondre aux différentes personnes qui arrivent dans l'au-delà en fonction des situations.
Oui.
Puisque nous ne sommes pas tous de mort naturelle. Donc, j'ai effectivement mis un petit peu ce contexte. Alors, totalement en dehors de l'accident il n'y a rien à voir avec les chiffres ou rien à voir avec les morts différemment réelles.
Hein. Oui.
C'est tout juste l'aspect technologique que j'ai voulu parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent tous les jours.
Mm-hmm.
Donc je me suis dit, il faut de la technologie pour assurer un suivi, on va dire, concret.
D'accord.
Des personnes. Pour aussi qu'en tant que, je dirais, futur mort, on puisse, nous, se retrouver là-haut.
Oui.
Et Jack va effectivement constater le chemin que parcourent les âmes, le chemin que parcourt, on va dire, l'information, pour être sûr que là-haut, ils ne se plantent pas. Et là, ils sont bien plantés, quoi.
Alors, une chose qu'on n'a pas précisée encore depuis le début, depuis que nous avons commencé, c'est que vous avez bien voulu dissocier les croyances des religions de votre livre.
Tout à fait. Il est vrai qu'à la base, je me suis posé la question, est-ce que je mets une relation entre l'au-delà et les religions, les politiques, etc. J'ai totalement banni cet aspect parce que, déjà, j'avais aucune envie d'avoir des problèmes avec un culte quelconque.
Oui.
Et parce que l'objectif, c'était vraiment de faire une fiction de l'au-delà et non pas une fiction sur une religion.
Mm-hmm.
Même si elle-même soit un peu fictive dans un sens.
Oui.
Il faudrait effectivement totalement mettre une barrière et dire que c'est totalement... apolitique et il y a aucun contexte de religion.
Oui.
Je me suis fortement renseigné sur les principales religions, je ne les citerai pas parce que c'est pas du jeu, mais sur les 4 à 5 religions, on va dire, emblématiques sur Terre, pour faire un point et surtout je ne dois pas mettre ceci, je ne dois pas mettre cela, parce que ce n'est pas du tout l'objectif.
Ah non, du tout.
Il fallait vraiment rester...
Et donc, quand vous vous êtes plongé dans cette écriture, quand vous avez posé les premiers jalons, comment vous vous êtes positionné, vous, en tant qu'humain, pour pouvoir justement arriver à dire tout ça ?
Je dirais que j'ai presque pris la place de Jack.
D'accord.
C'est un petit peu l'opposé d'un livre historique, d'un roman historique. Je me suis un peu mis dans la peau de Jack et je me suis dit, si moi-même je devais partir par accident... j'ai inventé ce lieu pour dire, on va monter dans les différentes strates. Je me suis un peu imaginé, vu que c'est de la fiction, on doit quand même imaginer un contexte et imaginer le personnage. Comment est-ce qu'il va devoir présenter des scènes, présenter des environnements qui n'existent pas pour nous, mais qui ont quand même une consonance un peu terrestre. Et ça, c'est totalement volontaire.
Et c'est le voyage que vous aimeriez faire ?
Je dirais peut-être, mais je ne suis pas sûr. Parce que si je pars, comment je reviens ? je me suis posé la question. Si moi-même, je suis appelé et que c'est par erreur, je pense que je n'aurais pas vécu cette expérience. Parce que c'est quand même, dans un sens, autant il y a des repères que j'ai créés, autant dans l'au-delà, on perd tous nos repères normalement. Donc, refaire les mêmes choses que j'ai fait sur Terre, non, je préfère rester sur Terre pour l'instant, j'y suis bien.
Alors on va faire une petite pause musicale si vous le voulez bien et puis on va reprendre le cours de notre histoire. Thank you. vous êtes bien sur Radio Galaxie. Jefferson nous dévoile son premier roman, Perte de contrôle dans l'au-delà. Nous retrouvons Jackson, parti faire un prélèvement à proximité d'une usine polluante et qui se retrouve, malgré lui, happé dans un tourbillon. Donc, sans trop en dire, vous avez imaginé un monde très complexe dans l'au-delà. Pourquoi cette complexité ? Parce qu'il y a le bas, il y a le moyen, il y a le très haut. Entre, il y a des cases, on ne sait pas trop où on est, ça bouillonne, ça cuisine, ça fait de tout.
Tout à fait.
Alors, comment et pourquoi ?
Bon, en fait, je me suis encore une fois un petit peu rapproché de certains modèles, on va dire, terrestres. Donc, les différents niveaux, effectivement, de hiérarchie, on va dire, dans toute entreprise. Et aussi les niveaux annexes, tels que les cuisines, qui sont en fait, ben, en fait des fonctions annexes, mais indispensables
pour
qu'on puisse vivre. Des lieux, on va dire, un petit peu plus haut pour des lieux de repos, des lieux de conversation, mais aussi des lieux emblématiques où, je dirais, les futurs morts vont vouloir un petit peu se repérer, être accompagnés, puisqu'il y a donc des personnages qui vont les accompagner.
Et oui.
Dans ce périple, mais aussi donc qu'ils puissent se repérer et être accompagnés pour rechercher l'information. Dans l'au-delà, on a le temps, donc ce temps-là, à quoi je vais le consacrer ? Et surtout, qu'est-ce que je vais faire ici que je ne connais pas ? Donc j'ai mis placer des événements, placer de l'information et des personnages pour en fait assister chaque âme, on va dire, pour qu'elle soit pas perdue entre guillemets, mais aussi pour qu'elle puisse aller dans des endroits différents, évoluer si elles le veulent. J'ai voulu créer différents niveaux pour qu'il y ait une sorte de, comment dirais-je, une sorte de différents espaces pour que chacun, après une fois qu'on est dans l'au-delà, je ne sais pas si après une âme va partir encore ailleurs, ça sera peut-être encore un autre sujet, mais j'ai voulu qu'avec le nombre, la masse d'âmes qu'il y a là-haut, chacun puisse s'occuper tout simplement.
Oui, et y trouver sa place.
Et trouver sa place, trouver des partenaires, puisque il y a certains personnages que j'ai enlevés, mais je voulais avoir des personnages historiques, mais je me suis dit, l'historique, c'est pas du tout l'objectif, donc on va rester dans ces espaces, dans ces différentes salles, on va dire, différents lieux, où l'âme pourra faire des activités, réfléchir, communier, retrouver pourquoi pas des membres qu'elle connaissait avant qui se retrouvent là-haut. J'ai voulu quand même garder à l'esprit des lecteurs et lectrices justement ces liens qu'on a sur Terre et qui, je pense, sont quand même importants le jour où ils partiront.
D'accord, c'est très, très imagé tout ça. Alors, vous n'y allez pas par demi-mesure, parce que ceux qui sèment la pagaille, ceux qui ne rentrent pas dans le rang de l'au-delà, ils sont direct basculés dans la marmite.
Exactement.
Donc, il y a un haut et il y a un bas.
Il y a un haut, il y a un bas, il y a aussi beaucoup de risques à être dans l'au-delà par rapport effectivement aux certaines espèces que j'ai créées. Oui, effectivement, il y a cette hiérarchie. Et si on essaye comme sur Terre, de prendre plus de pouvoir qu'on en a, d'essayer de changer trop la mécanique, on en paie le prix fort.
D'accord.
Et ça, effectivement, on constate que certains, en fait, on a cette possibilité de disparaître tout simplement. Quoi.
Alors, est-ce que c'est aussi votre métier d'informaticien qui vous a donné l'idée de la communication avec l'esprit et par l'esprit ? Parce que les gens ne parlent pas là-haut.
Exact. Non, c'est ça ne vient pas de mon métier. Non, ça ne vient pas de la technologie. Ça vient, je dirais, de ce que j'ai constaté dans beaucoup de films. Et on pourrait presque dire une sorte d'évolution, on va dire. Cette évolution de pouvoir communiquer effectivement par la pensée. Ce sont des petits aspects que j'aime bien, on va dire, d'un point de vue scientifique et qui est étudié dans certaines universités.
Oui.
Qui existe plus ou moins bien, on va dire. Mais j'ai voulu mettre en avant effectivement ces aspects de transmission de pensée, comme on pourrait l'appeler, et ces aspects un peu plus avancés, on va dire, que l'humain ne peut pas encore faire.
Oui.
C'est effectivement un point que j'ai souhaité mettre, parce que je pense qu'on a le temps là-haut d'élaborer des techniques et d'élaborer d'autres choses. Je l'ai voulu parce que, en fait, je l'ai constaté dans beaucoup de films et c'est un aspect que j'aime bien. Cette communication un peu au-delà de nous, notre pensée humaine.
Oui. Alors, puisque vous aimez les voyages, est-ce que les halls de gare ou les aéroports vous ont inspiré pour votre chef-d'œuvre ?
Oui, mais il n'y a pas de... Je dirais, ce n'est pas un lieu précis. Ce n'est pas forcément un aéroport ou une
gare. Tout à fait.
J'ai effectivement...
Mais à un moment, on y retrouve cet esprit.
Il y a ce contexte, il y a cet esprit. Non, vous avez tout à fait raison. Il y a cet esprit, c'est volontaire, mais c'est, je dirais, un lieu, enfin, ou même des lieux généralistes. Parce qu'en fait, on veut dire dans les halls de gare ou l'aéroport, ce sont des lieux où on part pour un voyage, je dirais avec un transport quelconque, mais aussi justement où on recherche l'information, on va devoir aller à la rencontre de gens parce qu'on ne sait pas où s'orienter. Mm-hmm. J'ai effectivement tout à fait voulu avoir ce principe, ce contexte d'endroit qui réunit des gens. Vous avez raison, tout à fait.
Et puis les gens se croisent, ils vont, ils viennent, mais voilà, c'est tout à fait anonyme, comme dans l'au-delà, quoi.
C'est tout à fait ça, c'était le principe que j'ai voulu conserver, absolument.
Mm-hmm. Alors, on arrive à la page 38. Le Perfinge, l'hybride, tous se ressemblent. Il n'y a pas de différence entre eux. Est-ce qu'il y a des similitudes avec la vie terrestre là aussi?
Il y a effectivement certaines similitudes. Pour Jack, c'est en fait la première fois qu'il les rencontre. Et il est vrai qu'au premier aspect, ils se ressemblent. Une fois qu'on a un petit peu communiqué avec eux, une fois qu'on a découvert un petit peu leur fonction et ce pourquoi ils vous accompagnent dans l'au-delà, on s'aperçoit qu'il y a effectivement certaines similitudes, mais aussi, je dirais, des aspects supplémentaires.
Oui.
Que ce soit dans l'aspect, on a vu que certains, ils vont certainement un petit peu voler, on va dire, ils ne marchent pas.
Oui.
D'autres se déplacent, on va dire, bizarrement par rapport à nous, parce que j'ai imaginé que dans l'au-delà, il y a peut-être de la gravité, mais certains ont cette faculté de se déplacer, je dirais, différemment. Alors pourquoi? Parce que ça, encore une fois, je l'ai observé dans certains films de science-fiction, et ce sont des fictions, en fait, qui ont des... Ben, on est dans l'espace.
Oui.
Donc, en fait, on a cette possibilité d'un petit peu de voguer dans l'air, d'avoir du transport, dira-t-on, peut-être un peu changeant ou amélioré.
Mm-hmm.
Et c'est cet aspect que j'ai voulu révéler et mettre dans le bouquin.
Oui.
Ils se ressemblent, mais ils auront quand même quelques différences, effectivement.
D'accord. Alors, à la page 43, j'ai relevé quelque chose qui m'a fait vraiment sourire et j'ai dit, franchement, vous avez un cerveau qui doit bouillonner. Vous avez écrit « Pensez en mode réflexion ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ça?
Alors, ce sont des petites phrases que j'ai glissées parce que le livre, certains ont pensé que c'était plus un livre pour les adultes. Parce que même certains mots, bon, un petit peu osés, il y a des scènes un petit peu, ça chauffe,
oui.
Un petit peu. Mais bon, des petits aussi l'ont lu, mais j'ai voulu mettre en fait des contextes un peu actuels, des textes jeunes, je passe en mode ce que je veux, j'ai trouvé que c'était des petits aspects assez sympas par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, quoi,
oui.
Ou moins jeunes, moi aussi j'utilise, avouons-le. Donc j'ai trouvé que ça a été, non pas un repère, mais des petites phrases sympas par rapport à nous qui peuvent, qui sont un peu accrocheurs.
Alors ça fait quoi une âme en mode réflexion?
Bah ça fait une âme qui a l'habitude de travailler, qui a l'habitude d'avec à ses occupations,
oui.
Et elle est tout d'un coup dans une situation qu'elle ne connaissait pas, donc elle a une attitude en fait exceptionnelle,
mm-hmm.
Et en fait c'est une réflexion qu'elle doit avoir, qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir, donc c'est on va dire une sorte de grand étonnement.
Oui. Alors on va continuer sans trop en dévoiler, et surtout on ne va pas parler de l'épilogue.
Je vais essayer.
Parce que l'épilogue, franchement, il fallait le trouver. Donc, c'est perte de contrôle dans l'au-delà. Moi, j'invite bien sûr les auditeurs de Radio Galaxie à découvrir ce livre. C'est une bonne lecture qui... Ben, elle est sympathique, elle est dépaysante. Pour le coup, on est vraiment dépaysé. Et puis, elle est récréative aussi, quelque part.
C'est vrai, c'est vrai. On peut, dans un sens, totalement décrocher de ce qu'on fait pour, on va dire, avoir un bon moment paisible pour son imagination.
Est-ce que vous avez eu du mal à laisser ce lieu de l'au-delà où tout paraît doux, où tout paraît sympa, où tout paraît... il fait pas froid, il fait pas chaud, il fait la température idéale tout le temps. Donc, ça aussi, ça vient de l'informatique?
Non, ça vient pas de l'informatique en soi, puisque dans l'informatique on a d'autres contraintes qui sont pas forcément évidentes à gérer. Non, ça vient en fait de l'idée que là-haut, bah, en fait, ou l'au-delà, tout simplement, parce que ce soit là-haut ou en bas, on sait pas vraiment, qu'on doit être à l'aise. En fait, j'ai quand même voulu que tout soit fait pour que l'âme soit en paix, tout simplement.
Mm-hmm.
Donc physiquement, bonne température. Pour certains, ils aiment bien 25 degrés, ils auront 25 degrés. Pour d'autres, je préfère quand il fait moins 40, bah, tu auras moins 40. Et pourtant, on est côte à côte. C'est quand même
et
bizarre.
Et oui, voilà, c'est ça, oui. Un kilomètre dans l'au-delà, c'est un kilomètre sur la Terre ?
Ah non, c'est un kilomètre. Je dirais que j'ai pris l'échelle du temps, mais l'échelle du temps est difficilement mesurable.
Oui.
Et un kilomètre, effectivement, pour Jacques, ça fait un kilomètre, mais pas pour les espèces qui sont dans l'au-delà.
Oui.
Il y a effectivement des espaces qui ne sont pas mesurables. Et donc là, j'ai pris l'échelle du temps. J'ai même pas pris le contexte physique,
oui.
Parce que bon, c'était pas le but du livre. Mm-hmm. Et là, je pense que moi-même, je me serais un peu perdu.
À la page 80, la période des transitions. Alors, l'au-delà serait-il comme notre bonne vieille Terre dans un tournant de l'humanité ?
Je dirais que c'est cet aspect-là que j'ai voulu, qui est un aspect qui est très intéressant. Je vais le dire, une sorte de tournant dans la vie, effectivement, qui mérite la réflexion. On peut prendre le temps de la réflexion, de se poser, mm-hmm. comme le font certains sur Terre, mais sur Terre, on a tellement de contraintes, mes pauvres, qu'on ne peut pas faire pareil. Donc là-haut, effectivement, il y a tout à fait cette idée, c'est ça.
D'accord. Vous avez mis des noms quand même à un moment. Ouriel, drone, dominé, ça... Un sens ou c'est un fruit de votre imagination, de votre histoire ?
Non, ça a un sens. Même certains lieux, certains espaces ont des noms. Je décris même certains matériaux,
mm-hmm.
mais ça a un sens. Alors ça, c'est un peu inventé, mais là, ce que j'ai voulu soulever, c'était en me renseignant sur les différentes religions. Et j'ai voulu voir s'il était dans les écrits une hiérarchie ou des noms qui existent réellement dans les écrits.
Mmh.
Et en fait, j'ai pris des noms dans les différentes religions que j'ai assemblés pour créer des noms qui existent dans les bouquins, réellement, un petit peu arrangés pour avoir ce petit lien qui existe réellement. Et ces noms sont similaires dans toutes les religions, je dirais, sur Terre. Donc,
d'accord.
Je dirais, là, j'ai limité le risque.
Oui.
Ils existent juste en tant que nom, comme Michael, qui est un nom international,
tout
par exemple.
Oui.
Il existe, donc je l'ai repris. Mais je dirais plus, c'est une consonance internationale, pas de religion.
Oui.
Mais malgré tout, ce prénom ou ces noms existent dans toutes les religions. Je les ai un peu modifiés pour pas qu'il y ait de repères réels. Mais je les ai pris et juste un peu arrangés pour avoir ce petite chose des anges.
Donc ce sont les seuls repères à la limite que vous mettez quelque part, tout en faisant quand même la distinction de votre imagination et de votre fiction.
Oui, et ça c'est un repère que je dirais voulu. Alors mm-hmm. pourquoi ? Si on prend l'exemple par exemple du prénom Michael, j'ai pris cet exemple-là. Parce que dans les écrits, il est écrit comme un ange ou un archange.
Oui.
Et pour toute personne, un ange ou un archange, c'est quand même quelqu'un de la lumière, quelqu'un d'agréable qui vous suit, qui vous écoute. Que ce soit dans la littérature ou au cinéma, les anges ont toujours, ils ont quelque chose de bon en eux. Et donc, c'est la seule, je dirais, effectivement, similitude avec la religion pour dire, à la base, ils sont quand même, ils sont sympas, quoi.
Oui.
Donc, en fait, ils sont là pour le bien.
Mm-hmm.
Donc leur prénom, ça fait un petit rappel aux anges, tout simplement.
Oui. Alors on va pas tout dire, on va essayer de garder
je vais essayer.
Le suspense.
C'est vrai qu'on peut en dire.
Mais par contre, vers la fin de votre livre,
oui.
quand ils vont enfin dévoiler le pourquoi du comment,
oui.
Là il y a du froid, là il y a de l'orage, là il y a de la tempête. Et en plus, nos deux grands héros, nos deux grands... commandant, on va dire, mm-hmm. sans dire qui c'est. Là, c'est la vraie bataille.
Oui. Ça, c'est, je dirais, un contexte... J'ai repris un contexte un petit peu terrien.
Oui.
En fait, quand on a un gros souci à résoudre,
oui.
quand on s'aperçoit qu'une chose dramatique
mm-hmm.
a été cachée et qu'elle aurait pu être résolue en quelques minutes ou rapidement, si je puis dire ainsi... même si là, il n'y a pas vraiment de temps, j'ai voulu effectivement avoir un contexte un petit peu chaotique. Mm-hmm. En fait, comme sur Terre, quand vous avez un grand responsable qui s'aperçoit qu'on a fait une grosse boulette qui aurait pu être résolue,
mm-hmm.
Là, ça pète un peu, oui. Mais
oui.
C'est totalement voulu que cette ambiance, justement, chaotique, apocalypse, où on en voit un peu partout, ça vole de partout, mais c'est totalement voulu pour dire c'est vraiment la merde.
Mm-hmm.
Bon, maintenant, les gars, on va un peu se poser, on va réfléchir. Hein.
Oui. Et alors, ces deux personnages, justement, qui sont à la fin, là, est-ce qu'aussi ils existent sur Terre ?
Je ne pense pas. Je dirais qu'ils existent peut-être dans certains endroits.
Oui. Alors, est-ce qu'ils existent à plus petite échelle, peut-être ?
Certainement. Et je pense qu'ils travaillent aussi, tout aussi mal.
Tout à fait. Bien, en tout cas, j'ai vraiment apprécié cette lecture, franchement. Merci beaucoup, Jefferson, de ce bel ouvrage. Moi, j'avoue avoir ri quand je l'ai lu, parce que c'est vrai que ça porte à sourire en tout cas, et à rire quand même, puisque l'imagination, elle est là. Il y a des idées subtiles, franchement, c'est bien fait.
Merci.
Et finalement, il y a beaucoup d'humour qui est présent tout le long de la lecture.
Oui, on ne va pas rester figé aux contraintes,
oui.
Autant un peu s'amuser.
Merci encore de nous avoir fait découvrir ce livre d'un reliure, Perte de contrôle dans l'au-delà. Où est-ce qu'on peut le trouver pour le lire ?
Alors, vous pouvez le trouver sur les plateformes, je dirais, existantes, telles que Amazon, telles que Google.
Mm-hmm.
Et sinon, il est directement en vente et accessible dans la maison d'édition pour les auto-éditeurs, qui s'appelle The Book Edition.
D'accord.
Où donc, comme moi, les nouveaux auteurs ou anciens peuvent éditer eux-mêmes leurs écrits avant de passer par la voie normale des éditeurs de grandes maisons.
Alors, vous avez laissé... D'abord, est-ce que vous avez eu du mal à laisser ce livre ?
J'ai eu un petit peu de mal parce que je voulais le continuer, mais je ne voulais pas que la lecture dépasse, je dirais, quelques heures.
Oui.
Et j'ai voulu, à la fin, que le lecteur reste dans cette réflexion. Jacques, combien de temps est-il parti ? Et quand il revient...
Ça, c'est la grande question.
Quand il revient, la Terre a-t-elle changé ?
Mm-hmm.
Et j'ai voulu laisser cette réflexion, mais devant certains commentaires, j'ai déjà imaginé la suite.
Ah, donc il y aura une suite.
Il y aura une suite.
D'accord.
D'accord. Un peu plus mouvementé, j'irais même.
Oui, parce que ce qui m'intrigue, c'est de savoir si Jackson a vieilli. Puisque quand il revient, il y a quelque chose qui pourrait dire qu'il a vieilli. Mais est-ce qu'il a vraiment vieilli ?
Eh bien, c'est une bonne question que vous saurez dans le prochain bouquin.
D'accord. Est-ce que vous avez un autre livre en cours ? Est-ce qu'il y aura un prochain livre à part la suite ?
Oui, et j'ai effectivement deux ouvrages que j'ai commencé, mais qui ne sont point achevés, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir et qui sont totalement différents, qui sont en cours depuis quelques temps, je dirais.
Mm-hmm.
C'est le problème du temps.
Donc
le temps pour se plonger
voir.
Dedans, pour continuer.
Vous reviendrez nous voir.
Aucun souci, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jefferson. Nous allons nous quitter. Vous allez nous dire ce que vous avez choisi comme musique, peut-être le pourquoi aussi de la musique. Et puis, moi, je vous dis au revoir. Je vous laisse le mot de la fin.
La musique, c'est celle, en fait, du thème After Here, au-delà, bande originale. Eh bien, merci beaucoup et peut-être à très bientôt sur les écrans.